dire.
Oui, bonjour madame, ici la transhumance, pour savoir, parce qu'il y a le jet Kang Guan, il est inquiet, donc à bientôt.
Bah écoute, mon séjour en Palombie était...
Palom peu, palom bien.
Bonjour Hugo, bonjour Annaëlle.
Bonjour Gwen.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Hugo.
Bonjour tout le monde.
Maman et papa étaient dans le pieu.
Maman et papa étaient dans le pieu.
Maman se retourne et elle dit au vieux.
Maman se retourne et elle dit au vieux.
Oh fais-moi faire,
oh fais-moi faire,
oh fais-moi faire,
oh fais-moi faire.
La gym,
la gym,
la gym,
la gym.
Bon pour toi,
bon pour toi,
et bon pour moi,
et bon pour moi.
Oui, alors donc, Annaëlle va vous expliquer ce que c'était le Vietnam de 65 à 75.
Ah
à
non,
demain.
Ah non, non, même... même moi, la guerre de Vietnam, c'est pas du tout ma cam. Mais j'ai quelques dates...
Que voilà. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, ce sera la guerre du Vietnam.
11 décembre 1961, c'est la première intervention américaine au Vietnam. Mm-hmm. Donc c'est la première fois dans l'histoire du combat contre la guérilla communiste que les Américains interviennent pour aider les Sud-Vietnamiens. C'est l'émergence du mouvement hippie aux États-Unis. Les Américains s'opposent à la guerre du Vietnam.
En 68
pas. Non, il n'y a pas marqué de date. Mais
moi, je te le dis.
Bon, bah, en 68, dit. Très bien. Toi, t'étais né. Très bien. Il y a eu une grande manifestation en 71. 500 000 manifestants, hippies, objecteurs de conscience et vétérans qui dénoncent la guerre du Vietnam. Et donc, ils font un sit-in à Washington. Alors là, j'ai une date. Jane Fonda débarque en Vietnam, merci. Sur Radio Hanoï, elle exhortera les GI américains à cesser les bombardements. Et en 73, le 27 janvier, signature des accords de Paris. C'est un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. Hanoï s'engage à libérer tous ses prisonniers, mais le problème n'est pas réglé pour autant. Si l'Amérique se retire du conflit, les communistes du Nord et l'armée sud-vietnamienne continueront à s'affronter jusqu'à la défaite du Sud en 75. Bon, les derniers GI quittent le Vietnam en 73, du coup, logique.
Non, sauf, sauf les prisonniers.
Voilà, sauf les prisonniers, tout à fait.
Eh ben si.
Et non, parce que les prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers qui étaient dans des camps encore.
Voilà, tout à fait.
Tu n'as pas vu Portée disparue, un grand film,
non,
un chef-d'œuvre.
Ouais, Chuck Norris.
Bon, bref, et du coup, plus tard, la capitulation de Saigon. Voilà, et donc le pays n'est plus divisé. La guerre du Vietnam qui dure de 65 à...
75,
10 ans.
Tout à fait.
10 ans de tueries, de massacres. Non, mais de toute façon, je suis anti-militariste. Mmh. Alors, qu'est-ce que je viens faire une émission sur la guerre
je
du Vietnam?
Je dirais donc 5 soldats sur 8 survivaient lorsqu'ils étaient sévèrement blessés quand même, hein. Il y a eu 6 millions de vétérans qui sont passés par les drapeaux. Hein. En 1972, il y avait 310 000 blessés au combat.
310 000 blessés Donc, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent aux États-Unis et...
Ça dépend. Je crois que c'était au bout de 2 blessures que tu rentrais. Hein.
T'as intérêt à te tirer dans la jambe.
Pour... On le voit dans Platoon, hein, voilà. À la fin.
Et c'est à partir du 7 mars 1964, Johnson permet l'usage du napalm.
Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire.
Donc voilà. Et après, il y aura aussi l'agent Orange qui va faire aussi quelques massacres et notamment aussi des malformations au niveau des enfants vietnamiens.
Qu'est-ce que c'est l'agent Orange?
Alors l'agent Orange, c'est des défoliants qui ont été faits par la société
Qu'est-ce
Monsanto.
Qu'est-ce que c'est des défoliants?
C'est-à-dire que comme c'était la jungle quand même...
Un genre de grand désherbant.
Voilà, c'est ça. Et comme c'était la jungle, et les Viet Cong pouvaient se planquer. Que les Américains utilisaient ce produit, le genre Orange, pour détruire la jungle et donc pour...
Et les convois de ravitaillement aussi.
Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc moi, je voulais aussi rappeler quelques chiffres. Donc en décembre 1965, il y avait 185 000 hommes au Vietnam. En décembre 66, 390 000. Et en 67, il y en avait 500 000.
Combien de films?
plus de 50.
Plus de 50.
Tous ouais. américains
Non. Ouais, non, parce qu'il y a eu des documentaires français aussi dessus. Il y en a eu.
Pas de films vietnamiens ?
Si, il y en a eu, mais on a peut-être. Ouais, voilà, moi, j'ai pas recherché.
On est resté dans les super grands classiques. Parce qu'en fait, il faut dire aussi que, comme tu disais, il y a eu un grand mouvement de contestation aux États-Unis et aussi dans le reste du monde. Et en fait, c'est aussi l'émergence d'une certaine musique. Certaines façons de vivre et aussi l'apparition des trois grands hommes du cinéma comme Francis Ford Coppola, comme Oliver Stone, Stanley Kubrick.
Attends, je vais rajouter juste quelque chose.
Vas-y.
Donc le 25 octobre 1988, Reagan décida de la création d'une nouvelle agence, le département des affaires des vétérans. Quoi. Donc,
ah quand même.
Oui, devant autant de
vétérans.
Voilà, ça s'occupe de la gestion des capacités des vétérans blessés, de participer à la transition en douceur du milieu militaire au milieu civil et du devoir de mémoire.
Est-ce que ce bureau là des vétérans, il existe encore aux
États-Unis? Oui, il existe toujours. Hein. Il a un gros crédit chaque année, je crois, de la part du secrétaire d'État. La défense.
En même temps, ils font que d'aller faire la guerre n'importe où pour n'importe voilà, quoi. Donc
Oui, au bout d'un moment. J'ai l'impression que Irak 2 ressemble beaucoup au Vietnam, hein, on en parlera.
Voilà, tout à fait. Oui, parce qu'il y a la fameuse vietnamisation du conflit au Vietnam et donc l'irakisation
du conflit.
Voilà, ouais. Merci.
Oui, c'est un peu pareil, je trouve.
Voilà.
Je trouvais une grosse similitude avec ça quoi, en préparant l'émission.
Ça, c'est mon flingue et ça, c'est mon dard.
De bon soldat et un peu pétard.
Ça, c'est mon flingue et ça, c'est mon dard.
De bon soldat et un peu pétard.
Bon, alors Gwen va partir sur le premier film, Voyage au bout de l'enfer.
Voilà, donc le Voyage au bout de l'enfer, qui est un film britano-américain réalisé par Michael Cimino et qui est sorti en 1978, mettant en vedette Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Meryl Streep et Christopher Walken.
Pour la première fois, les deux. Hein.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'histoire de trois sidérurgistes d'une petite ville de Pennsylvanie qui sont engagés dans la guerre du Vietnam et qui vont être marqués par l'atrocité de la guerre, que ce soit physiquement ou psychologiquement.
C'est le premier film américain traitant de la guerre du Vietnam, de son traumatisme et de ses impacts psychologiques.
Oui, parce qu'avant, il y avait eu les bérets verts de John Wayne, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'était un film beaucoup plus patriotique.
Voilà, c'est ça.
Ce film a été considéré comme un des plus marquants parce qu'il s'intéresse moins aux scènes de guerre et plus à la psychologie et aux ravages des traumatismes subis.
Voilà tout.
Oh, chef !
Combien tu mesures, deuxième pompe ?
Chef, 1m75, chef !
1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça ! Tu m'en tuberais pas de 2 cm quelque part ? Hé !
Chef, non, chef !
En 79...
Attends, je voulais rajouter un truc.
Ouais,
c'est le thème musical aussi important dans ce film.
Vas-y,
tous
vas-y.
Les morceaux choisis, donc ils sont bien, bien adéquats à des scènes spécifiques des fois.
Oui, il y a un moment de la cérémonie du mariage et de la fête qui suit, on peut entendre des chants russes orthodoxes comme Slava et la chanson folklore russe comme Korobouchaka ou Katyushka.
Ben oui, parce que c'est les Russes, hein, il faut
voilà,
le dire.
C'est... Ensuite, en 79, il y a eu Apocalypse Now, donc de Francis Ford
Coppola.
Voilà.
Non, mais moi, j'arrête avec les films de Coppola.
Non, mais celui-là, tu peux aller le regarder, il est bien.
Voilà, tout à fait, oui.
Je me rappelle, quand j'étais dans les forces spéciales, il me semble qu'il y a des siècles et des siècles de cela, nous sommes allés dans un camp pour vacciner des enfants. Nous avons quitté le camp après avoir vacciné les enfants contre la polio. Et un vieux bonhomme nous a rejoint au courant. Il pleurait. Il n'a rien pu dire. Nous avons rebroussé chemin. Les autres étaient venus au camp et ils avaient tranché tous les bras que nous venions de vacciner. Ils les avaient mis en tas. Mis en tas. Tous ces petits bras. Et... je me rappelle, j'ai fondu en larmes, j'ai sangloté comme une grand-mère.
c'est Captain Willard qui est chargé donc par son état-major de retrouver et d'exécuter le colonel Kurtz, joué donc par Marlon Brando, parce qu'il l'état-major jugeait que ses méthodes étaient malsaines et etc.
Ah, donc c'est une mission pour éradiquer un mec qui fait des trucs
ouais, avec des massacres, oui.
Ok.
Qui a un peu dépassé son statut, si tu veux.
Ok.
Donc là, il est donc dans un patrouilleur, lui a alloué un patrouilleur. Et il remonte le fleuve et ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il va y avoir toute l'épopée. Et durant tout ça, donc, il étudie le dossier, donc ce fameux colonel Kurtz, et il va justement changer d'avis sur ce qu'on a pu lui dire, quoi.
Ah, donc en fait, il va peut-être se rendre compte que ce qu'il fait comme massacre, c'est pas forcément vrai, etc. C'est ça?
Je ne dirais pas, quoi. C'est un film
c'est
à
bon,
voir.
C'est un vieux film.
Non, il a eu une, ce qu'on appelle Apocalypse No Redux en 2001, quoi. Où on a rajouté donc 49 minutes en plus.
Coppola?
Oui, ça a été fait par Coppola, oui.
Mais voilà. C'est des scènes qui avaient été coupées au départ ou c'est
oui, des scènes coupées au départ, quoi.
Donc c'est des, mmh. c'est des scènes qui avaient été tournées au même moment, mais qu'on n'a pas mis dans le film et qu'on
exactement.
A rajoutées en 2001.
Oui.
Ok.
Tu vois justement la plantation française, là.
Les méthodes de Kurtz sont assez difficiles, mais il faut savoir que, en fait, tout ce voyage que Willard va faire sur ce fleuve, il va rencontrer aussi noir de personnages qui, eux, ont des méthodes tout aussi dégueulasses et que, en fait, quelque part, Francis Ford montre l'étendue du massacre qu'organisent les États-Unis au Vietnam sous l'égide du drapeau américain. Comme des grands enfants qui jouaient avec une fourmilière, quoi.
De toute façon, la guerre, c'est ça, parce qu'on peut voir dans l'actualité, il y a quelques mois, en Afghanistan, un des soldats américains qui, en plein milieu de la nuit, est sorti de son camp et est allé violer et tuer une famille dans le village d'à côté, par pure folie, parce que l'ennemi est déshumanisé, parce que la guerre est déshumanisée, et que donc, de toute façon, il y a des horreurs qui s'y passent. Après, là où les Américains sont forts, à mon avis, ils arrivent à faire des films sur leur propre... faire leur autocritique, quoi.
Quand il y a ce fameux personnage de Duval, là, qui lui a fait la fameuse chevauchée des Valkyries avec ses hélicoptères, là, qui débarquent et qui attaquent juste un village pour le faire le plus rapidement possible, en utilisant carrément des patrouilleurs et le napalm pour que le village soit rasé le plus vite possible, pour qu'eux, ils aillent faire du surf. Non, tu vois, il y a un côté où, effectivement, le Vietnamien, il est carrément déshumanisé. Et c'est aussi le cas dans Full Metal Jacket, où à un moment, le héros est dans un hélicoptère et il y a un type à la M60 qui allume tout ce qui passe, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que les buffles d'eau. Et que lui, il trouve ça extraordinaire et qu'il adore cette guerre, quoi. Pour ça, parce qu'il peut faire des tirs aux pigeons, quoi. Alors effectivement, maintenant avec la guerre en Irak ou en Afghanistan, on a carrément des gens, enfin pas des adolescents parce qu'ils sont un peu plus âgés, mais des jeunes gens qui vont à la guerre et qui sont habités à faire des shoot 'em up aux jeux d'ordinateur. Et en fait, voilà, eux ils font que reproduire.
Oui, mais
c'est
différent quand même, parce qu'entre tuer quelqu'un et tuer quelqu'un sur une console.
Mais justement, c'est là où ils.
T'as le psychologisme.
Oui, bien sûr, mais justement, c'est là où ils sont très très forts au niveau de l'armée et de la formation. C'est que je pense que justement, il y a tout un travail pour déshumaniser l'ennemi, de manière à ce que ça, il y ait pas de différence.
Mais il y a pas d'ennemi justement.
Comment ça, il y a pas d'ennemi?
Ben ils l'ont cherché au Vietnam l'ennemi. Hein.
Oui,
c'était
non,
pas
mais...
comme tu sais, ils sortaient de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ils savaient où il était, quoi.
Non,
mais
non,
là,
mais
ils n'étaient pas préparés
là,
du tout, quoi.
Ils vont tuer des gens.
Que ce soit psychologiquement.
Demander à des
et...
soldats d'aller tuer des humains en face, c'est pas possible. Il y a un moment où ton.
Ta oui, mais il y avait beaucoup de soldats qui sortaient de l'Amérique profonde, si tu veux, quoi.
Oui.
C'est de l'Oklahoma, tout ça.
Mais c'est
ça,
pour ça qu'il faut qu'en face, on dise que l'ennemi, entre guillemets, enfin la personne qu'on est en train de décimer, le peuple qu'on est en train de décimer, il est effectivement pas comme nous. Parce que les
non,
nazis...
Non, ça n'a rien à voir, ça.
Bah,
si tu veux, eux, si tu veux, ils voyaient leurs potes et tout se faire défoncer la tronche, quoi. Et après, ils n'arrivaient plus, justement, au niveau des nerfs, de la fatigue et tout ça, qu'ils n'arrivaient plus à faire l'assimilation entre ce que je dirais le bien et le mal, enfin si on peut dire ça.
Mais c'est ça.
Et c'est pour ça qu'ils perpétraient des massacres, quoi. Il fallait qu'ils se défoulent, les types, quoi.
Mais tout à fait, mais c'est fait exprès. Ce que je pense, c'est que par exemple, dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, on se bat contre l'ennemi nazi, et effectivement, il y a des films à l'appel, parce qu'on s'en fout, comme Tarantino qui a fait Inglourious Basterds. Je veux dire, on massacre du nazi, et puis c'est pas grave, parce que c'est des gros méchants, ils ont fait pire que nous. Donc là, la déshumanisation, elle est facile. On va tuer des nazis, de toute façon, ils ont fait des trucs pires. Quand tu vas te battre contre un peuple comme l'Irak ou comme l'Afghanistan ou comme le Vietnam, où tu vas pas vraiment te battre contre justement cette armée, ce peuple, te battre pour des richesses ou tu vas te battre pour des raisons politiques. Du coup, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit perpétré au niveau psychologique, au niveau des soldats, à mon avis, au niveau de la formation des soldats, pour déshumaniser l'ennemi en face et que les soldats aient pas l'impression qu'ils tuent des gens et des populations. Sinon, ils pourraient pas le faire.
Justement, c'est ce qu'on
voit. Je pense que si Kennedy n'avait pas été assassiné, il n'y aurait pas eu le Vietnam.
Exact. Parce que lui, il voulait déjà commencer à se retirer. C'est Johnson qui a ensuite permis...
Oui, directement. Dès qu'il était nommé dans l'avion, il a signé la guerre du Vietnam.
Voilà, c'est ça.
Donc, mais c'était un conflit politico-militaire.
Voilà, on voit cette déshumanisation déjà dans le film de Stanley Kubrick, parce que tout ce personnage de sergent instructeur qui est en train d'insulter ses soldats...
Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera... Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaises ». Est-ce que c'est bien clair ?
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef !
Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Yupin ou Metek. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. De punaise, est-ce que c'est clair ?
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien !
Chef, oui, chef !
Tu parles d'un autre film, là. On est sur Apocalypse Now, donc c'est bien qu'on finisse avec celui-là.
On a changé.
Mais on est sur Full Metal Jacket, faut le préciser.
Voilà, c'est ça. Voilà, il y a ce sergent instructeur qui brise ces jeunes hommes qui, effectivement, viennent de partout, du Texas.
Ah, d'ailleurs, tu viens de quelle bled paumée, deuxième pompe ?
Chef du Texas, chef !
Ah, férole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des pédés qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Tu suces des nœuds ?
Chef, non, chef !
Tu serais pas pompeur de paf ?
Chef, non, chef !
Je parierais que t'es du genre à enfiler un mec jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de lui manipuler gentiment le petit frère. Je te préviens, jetez à l'œil.
De l'Oklahoma, du Wisconsin, et en fait, il les organise pour devenir des armes de guerre.
Mais c'est
des
pour Marines. Ça.
Né un 4 juillet d'Oliver Stone, il y a aussi cette histoire-là, c'est-à-dire que, bon, c'est pas que l'entraînement, mais aussi toute cette propagande qu'avaient les États-Unis à cette époque-là.
Oui, oui.
Je veux dire, on sortait de la Seconde Guerre mondiale où ils étaient des héros.
On le voit bien dans les bérets verts, excuse-moi Gwen, ouais, dans les bérets verts, c'est le film de John Wayne. Et donc, c'est pareil, quoi. Il s'est investi personnellement. Il a fait d'ailleurs pas mal de films patriotiques, on va dire. Parce qu'on le retrouve dans Iwo Jima, et Le Jour le Plus Long et Alamo, quoi. C'était apparemment son truc, ça. Et donc, il a fait un film là-dessus, quoi. C'est dès le début de la guerre du Vietnam pour justifier l'intervention américaine. Et on peut le comparer, ce film, justement, à Diem Bien Phu, parce qu'on est directement projeté sur le lieu du champ de bataille, quoi.
Et puis, d'ailleurs, ce qu'il faut...
Il n'y a aucune explication préalable. Ils ont même comparé ce film à la propagande de l'URSS à l'époque. C'est qu'un film de propagande, si tu veux, quoi.
C'est-à-dire, ils disent que c'est bien d'aller faire la guerre.
Voilà, exactement, quoi. T'imagines bien, quoi. On est des héros et tout. Tu sais, c'est sur un peu. Il est chargé de recruter des forces spéciales. Tu retrouves ce mot force spéciale aussi avec Rambo, c'en est taillé un. Et aussi dans Voyage au bout de l'enfer.
Et d'ailleurs, dans le Full Metal Jacket, en fait, eh ben, le héros guignol n'arrête pas de citer John Wayne.
Donc, oui.
Là aussi.
Est-ce que c'est toi, John Wayne ? Ou est-ce que c'est moi ?
Qui a dit ça ?
Le héros, il s'appelle Guignol ?
Oui, c'est un surnom, en fait.
C'est un surnom, puisque justement, le sergent instructeur les déshumanise et leur offre des surnoms comme Guignol, comme Cowboy.
Si tu l'as pas vu, je te conseille celui-là.
Oui, celui-là, il faut vraiment le voir, quoi. Parce
que
t'as... Non, mais je veux dire, t'as tout cet entraînement, toute cette histoire aussi au milieu avec Stars and Stripes, de désinformation que font les États-Unis et qu'on voit aussi dans le film Good Morning Vietnam. Et ensuite, il y a toute cette guerre et ces atrocités, ces snipers et ces pièges aussi, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a comme film nul sur le Vietnam ?
Il y en a beaucoup.
Ben, Portée disparue, moi je dirais.
Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
C'est le nec plus ultra.
On peut pas dire que c'est des grands films, on dirait que c'est plus des films sur. Sur les vétérans, enfin sur après tu sais les prisonniers qui sont restés au Vietnam en fait. Tu as aussi ça dans Rambo 2.
Moi j'ai repéré le c'est Hair, donc en fait c'était tiré d'une comédie musicale qui
c'est une comédie musicale.
Oui, mais il y a eu un film qui est sorti en 1979 et avec John Savage qui était donc dans Voyage au bout de l'enfer et qui est fait par Milos Forman et que ça raconte l'histoire de Claude Bukowski qui est un jeune fermier de l'Oklahoma qui désire visiter New York avant de partir pour le Vietnam et à Central Park il se lie d'amitié avec un groupe de hippies. Cette rencontre va bouleverser sa vie mais également celui d'un de ses nouveaux amis. Toute cette comédie musicale, tout ce mouvement qui se crée aux États-Unis contre la guerre et aussi contre un étatisme aussi assez puissant puisqu'on veut briser justement tout notre passé.
Le problème, c'est qu'on a gardé le contre l'étatisme puissant et pas le contre la guerre maintenant.
Mais c'est pas faux. Hein. Et puis après, il y a aussi dans un film un peu plus comique, il y a Forrest Gump puisque lui aussi.
Comique. Moi, j'ai pleuré devant Forrest Gump.
C'est le but du cinéma, hein, de susciter des émotions.
Voilà, c'est ça, avec la musique. Quand tu vois Forrest Gump, je veux dire, il y a tout ce passage-là aussi, tout cet élan patriotique. Et lui qui va rencontrer son ami, le fameux Benjamin Buford Blue, qui, son fameux Booba. Il n'est pas sans rappeler celui, le fameux soldat baleine qu'on voit dans Full Metal Jacket.
Il n'y a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine.
Chef, oui, chef.
Tu trouves que je suis mignon, mon petit baleine. Tu trouves que je suis marrant.
Chef, non, chef.
Alors, tu vas m'effacer ce sourire débectant que t'as sur la figure.
Chef, oui, chef.
Et aussi le fameux lieutenant Dan Taylor, qui sera amputé de ses deux jambes, comme les Tom Cruise dans Né un 4 juillet. Voilà.
Bon, qu'est-ce qu'on en retient de cette guerre du Vietnam au cinéma? Alors, des films d'action, des films violents, des films expriment le massacre.
Nous, avec Hugo, on a quand même choisi quelques films qui sont plutôt des films qui critiquent.
Représentatifs, oui.
Qui critiquent plutôt
ce
qui
s'est passé. Hein, tous les films qu'on t'a dit, là, ils sont anti-guerre.
Voilà, c'est ça. Je veux dire,
à part les bérets verts.
Voilà, c'est ça. Quelque part, les États-Unis, qui ont que quand même quelque part 200 ans d'histoire, sont quand même arrivés à critiquer leur présence à plus de 10 000 miles de chez eux, alors que nous, les films sur la guerre d'Algérie, je ne pense pas qu'on en ait 50. Je ne pense pas qu'on en ait fait quelques années après les événements en Algérie. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi la puissance du cinéma américain. Bon, après, c'est vrai que c'est
France. Il y a eu tout de suite des contestations aussi. Hein.
Oui, non, mais voilà, puis il y avait tout un
mouvement.
Parce
que le cinéma, c'est aussi une grande manière pour eux de s'exprimer.
Mais tout à fait.
Contrairement à notre culture qui est plus dans la littérature.
Je dirais qu'au début, à part Les Bérets Verts, enfin, qui est un film patriotique, après, il y a des documentaires qui étaient tout de suite en 68, quoi. Parce que moi, j'en ai un, c'est sur Vietnam, année du cochon, là. Donc c'est pareil aussi. Hein. Mais c'est un film, un documentaire qui a été très mal reçu parce qu'il y a eu des menaces à la bombe et du vandalisme dans les salles de cinéma. Quoi.
Ah quand même.
Ouais, mais
parce que c'est un documentaire pro-Vietnam du coup.
Non, c'est contre. Hein.
Contre le Vietnam.
C'est aussi, regarde, t'as aussi la sixième phase du Pentagone. Celui-là, il a été fait en 68 aussi. C'est un documentaire français. Quoi. Et donc il relate aussi de la marche, tu sais, qui a été faite sur le Pentagone en automne 67 par 100 000 personnes. Tu sais, il y avait des étudiants et tout ça. Là. Je dirais que là, c'est à ce moment-là que les étudiants sont passés d'une attitude politique au fait, au geste politique. Quoi.
Oui, et puis il faut savoir aussi, parce qu'en fait, on brisait un mythe. Tu avais l'Amérique toute puissante, vainqueur des nazis, l'Amérique de papa, et avec l'Amérique des jeunes gens, des cheveux longs, des contestataires. Il y avait aussi, et ça, il ne faut pas oublier, parce que je pense qu'il y a peu de films aussi qui en parlent, c'est aussi tout ce qui est afro-américain. Je veux dire, qui était souvent envoyé dans les pires missions et tout, qu'on voit d'ailleurs dans Full Metal Jacket.
Racisme,
voilà, c'est ça.
Oui, mais,
mais ça veut dire que quelque part, eux, ils ont aussi manifesté pour leurs droits, que ce soit Malcolm X, je veux dire, il y a et Martin Luther King aussi.
Donc, pour finir là, avec ce documentaire aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo prise par Marc Ribou, qui montre une étudiante qui donne une fleur à une rangée de soldats,
fusil
en avant, là.
Mais là, par exemple, là, dans mon idée de, dans mon, mon résumé là, de la guerre du Vietnam avec le gigantesque sitting à Washington. Il y avait 500 000 manifestants environ hein, qui faisaient le sitting.
Toi, c'était plus tard celui-là. Hein.
Ouais, 71. Ils ont quand même arrêté, les forces de l'ordre américaines donc, ont arrêté 7000 personnes. Ils ont rempli toutes les prisons du district et même un stade.
Oui, mais est-ce qu'il justement,
c'est quand même une...
Non, mais si tu vois né un 4 juillet, tu le vois ça. Je veux dire, quand Ron Kovic revient, il croit encore en rêve américain, il croit encore être un patriote. Ses frères et sœurs, eux, sont justement les cheveux longs, ils écoutent Bob Dylan, Joan Baez et tout.
Les cheveux longs d'ailleurs, c'est en réaction aux cheveux rasés des
militaires. Voilà, c'est ça. Et eux, ils sont là-dedans. Et lui, au bout d'un moment, il ouvre les yeux et il va participer à ces manifestations. Et on voit qu'elles sont réprimées. Parce qu'il va dans un congrès de Nixon et les mecs lui hurlent dessus, quoi. Alors que lui, il a fait le Vietnam, il sait de quoi il parle. Et bien, ces gens qui, eux, sont restés, le critique parce qu'il n'est pas patriote, enfin qu'il ne le considère pas comme patriote.
C'est ça aussi, toi ils sont partis, ils étaient à la fleur, pas au fusil, mais ils étaient sous Kennedy, quoi, et ils reviennent, c'est un peu géré par des hippies, ils comprennent pas quoi. Ouais. Quoi, on leur crache dessus, alors voilà, qu'eux, ils sont partis vraiment en état patriote et tout, quoi.
Les fiertés de la nation. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Et là ils reviennent et on leur crache dessus.
Voilà, quoi. Mais c'est le cas de Rambo là, dans son premier film First Blood, et où lui il est revenu, on l'a entraîné dans les pires missions, je veux dire, c'est devenu une machine de guerre. Il revient, il va chercher ses camarades, il voit que d'ailleurs un, dans les premières images du film, un est mort d'un cancer parce qu'il a été victime de l'agent Orange, et il arrive dans une ville et on le traite de vagabond, et lui il a sacrifié quelques années de sa vie.
Alors qu'il voulait juste manger, hein, si tu regardes bien. Voilà, quoi. C'est le shérif qui lui cherche des poux, quoi.
Voilà, et après lui il part et il vient complètement siphonné, quoi. Donc tu vois, alors bon, c'est Stallone, c'est voilà. Après les suites, moi je suis pas d'accord. Mais au moins celui-là, il monte quelque part, effectivement, tous ces Américains. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vétérans du Vietnam qui sont allés s'installer en Alaska pour justement éviter tous ces désagréments qu'ils ont eu à subir
en rentrant.
Parce que je veux dire, à un moment, ils étaient entraînés dans la jungle à tirer des gens, des enfants, des femmes.
En se disant, je vais rentrer chez moi, je vais être un héros.
Voilà, et là, ils ne sont plus rien. Et ils ont vécu tellement de choses. Et ils peuvent c'est comme souvent les gens qui sont issus des camps de concentration ou même les gens qui ont fait la Grande Guerre, ils ne peuvent pas expliquer à leurs proches ce qu'ils ont vécu, quoi. Donc, ils préfèrent s'enfermer dans un mutisme et continuer tant que...
De toute façon, Rambo, c'était une accusation contre une Amérique bureaucratique.
Hein, les États-Unis se sont ruinés en psychothérapie, en fait.
Je suis pas sûr, à l'époque, ça existait bien, quoi. Et qui se moquaient, tu vois, ils se moquaient vraiment des soldats partis combattre pour elle, parce que Rambo, dans le film, au moins, il dit, il clame, c'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est dans sa grande litanie du fin du film.
Ouais, oui.
Donc ça veut tout dire, quoi.
Ouais, c'était pas mal.
Ouais, parce que le coup de la guerre, ça a été quand même.
Ça veut dire que tu vois, c'est pas les soldats qui sont partis pour ça, c'était vraiment une guerre politique quand même.
Mais oui, parce que en fait, c'était Eisenhower qui a lancé l'aide une fois que les Français ont lâché l'Indochine, parce que c'était une politique anti-communiste.
Outre les raisons de cette guerre anti-communiste, effectivement, le cinéma, qu'est-ce qu'il nous apporte comme éclairage sur ça? Parce que est-ce que nous, en France, on a été vraiment impliqués là-dedans? Non, pas vraiment, en fait, on s'en fiche.
Bah, après, il y a le film Indochine avec Catherine Deneuve.
Regarde, il a fallu attendre, là je reviens sur les bérets verts, là. Et donc il a quand même fallu attendre plus de 20 ans pour le voir passer sur une chaîne de télévision française, ce film Les bérets verts. Tu vois, moi, je pense qu'on n'aimait pas trop quand même...
Oui, mais est-ce que
on était un peu anti-guerre du Vietnam ici, quand même.
Ben oui, parce que je veux dire.
Je pense que nous, on était aussi dans nos trucs à nous, tu sais, mais 68.
Oui, mais voilà, justement, c'était ça. C'était, je veux dire, parce que quand tu écoutais de la musique, c'était Bob Dylan, c'était. Comment ça s'appelle? Les Rolling Stones.
C'était vraiment le mouvement des hippies,
les Doors aussi, et toute cette musique qu'on trouve dans ces films, quoi. Que ce soit Apocalypse Now, qui commence d'ailleurs avec une chanson des Doors, This is the End. Je veux dire, commencer un film avec This is the End. Bon, ben voilà, je trouve ça extra.
Et donc, le cinéma explique, critique et apporte un nouvel éclairage à la guerre.
Mais je veux dire, ça
c'est la vision. Regarde Oliver Stone, il en a fait trois. Hein. Il a fait Platoon et un 4 juillet et Entre ciel et terre. Et à chaque fois, tu vois, c'est trois thèmes différents. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Et parce que lui, il a été appelé volontaire, il sait ce que c'est. Il a fait ses films par rapport à ses souvenirs et tout ça.
Et d'ailleurs,
donc, je pense que c'est trois films anti-guerre quand même. Hein.
Et d'ailleurs, Entre ciel et terre, c'est la seule film, là qu'on a cité, hein, qui parle de la vue d'une Vietnamienne. Je veux dire, qui ensuite est tombé amoureux d'un Américain, qu'on a amené aux États-Unis parce qu'il avait tout, évidemment, l'American Way of Life et tout, et qui en fait vit avec Tommy Lee Jones, qui est le héros masculin, et qui lui, eh ben, il a vécu tellement de choses affreuses que lui ne peut plus se supporter, quoi.
Ne raconte pas la fin.
Non, mais voilà. Non, mais je veux dire, il y a un truc, c'est-à-dire que on aura beau créer des livres, on a beau chanter des chansons, moi je pense que ce qui me reste le mieux quand même, c'est l'image. Je veux dire, des images, ça sera toujours plus puissant que des mots, quoi.
Ouais, donc le cinéma fait aussi partie de cette chose qu'on doit conserver, le devoir de mémoire. Donc c'est pas mal.
Mais tout
pas
à fait. Oui, mais justement,
oui.
C'est
moi, nécessaire, de toute façon, je pense, pour libérer leur conscience.
C'est un peu un exutoire, ouais, aussi. C'est comme les Allemands qui font énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un exutoire pour libérer la conscience et ouais, c'est important. Ouais,
mais,
quoi.
Mais tout à fait. Et quand tu vois que justement les Allemands luttent contre leurs démons, ce qui n'a pas été le cas de l'Autriche, et ce qui fait que un parti nationaliste comme le FPO a pu gagner des élections parce que justement ils ont pas fait de devoir de mémoire, quoi. Donc voilà.
Ok. Bon bah moi c'est tout ce que je veux sur le Vietnam. Vous avez d'autres choses
à dire ? Est-ce qu'on parle encore des films là ? Non, on n'a pas parlé de Platoon, il y a quand même des trucs qui sont importants.
Oui, mais ça, moi j'aimerais bien qu'on parle de Platoon justement, puisque là aussi c'est une critique d'un.
Eh bah parlons de Platoon !
Voilà, qui veut dire peloton donc en anglais.
Oui, donc c'est le premier film d'Oliver Stone en 86.
Oliver Stone qui a fait la guerre du Vietnam, donc
oui,
en tant que volontaire.
Inspiré de la propre vie du réalisateur, engagé comme volontaire et blessé à deux reprises.
Et donc, et qui n'est pas sans rappeler le fameux massacre de May Lee, qui s'est passé je ne sais plus en quelle année, et qui a été aussi un choc pour l'opinion américaine, parce que c'est-à-dire que des soldats américains sont arrivés dans un village et ont massacré tout le monde, quoi. Et c'est ce qui arrive effectivement dans Platoon.
C'est un film sur l'affrontement entre deux sergents, quand même.
Oui, mais oui, non, mais le cadre quand même, c'est ce massacre dans un village aussi.
Oui, c'est à partir de ça d'ailleurs qu'ils se battent à la fin du massacre, les deux sergents.
Voilà, tout à fait.
Non, sur Platoon, je crois qu'on peut dire encore qu'il y avait plusieurs trucs qui ont été mis en valeur. C'est qu'il y a aussi l'abus d'autorité des soldats aguerris sur les Bleus. Hein, quand on voit les corvées qu'ils font, quoi. Il y a aussi, donc, comme tu disais, Gwen, les représailles sur la population civile. Et tu as aussi l'assassinat d'officiers impopulaires. Hein. On parlait de fragging parce que c'est dérivé de la grenade à fragmentation. Quand ils étaient assassinés ainsi pour ne pas révéler qui était le tueur, en fait. Comme quoi, tu n'en retrouvais pas des balles américaines, quoi. Donc, ça montrait bien à l'époque qu'il y avait quand même un grave souci dans l'armée américaine, quoi.
Non, mais de toute façon, je n'aurais pas encore joué mon antimilitariste de base, mais dans l'armée, il y a un problème. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de régler des conflits politiques par les armes.
Mais non, il est créé. Il les résout pas par les armes, il les crée.
Il les crée.
Bah oui, bah quand.
Donc de toute façon, dans ce système militaire, il y a un souci déjà au départ. Donc comment gérer des cohortes entières d'hommes qui sont là et de femmes qui sont là pour tuer? Parce que c'est, il y a des armées qui sont là pour maintenir la paix. Mais là, au Vietnam, on est dans des cohortes d'hommes qui sont gérés.
Oui, tu peux pas servir toujours de bouclier humain.
Oui,
si tu parles de l'ONU, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut répliquer. Quoi.
Non, mais je veux dire, dans le cadre du Vietnam aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que d'accord, il y avait l'armée nord-coréenne, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les Vietcong et que les Américains ont appelé les Charlie. C'est-à-dire comme cette image déjà qu'on n'arrivait pas à trouver. Et c'est-à-dire que tu pouvais être tranquillement en train de boire une bière avec tes potes à la terrasse, un petit gamin arrivait, déposait une boîte et tu explosais.
Ou la poupée.
Une poupée, voilà, comme dans Full Metal Jacket.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'il venait foutre
au
Vietnam.
Oui, non, mais je suis d'accord
avec
toi. Il
ne faut pas oublier qu'on était en pleine guerre froide. Hein.
Voilà, c'est ça aussi.
Il y avait les Russes qui alimentaient au nord et les États-Unis au sud. Hein, c'était ça le départ.
Oui, parce que je veux dire que
la guerre de Corée aussi, pareil. Hein.
L'armée vietnamienne du nord ainsi que les Vietcong, je veux dire, ils marchaient à la AK-47, la Kalachnikov, qui est quand même une arme russe.
Bien sûr, non, mais ok, ça, il n'y a aucun problème. Le conflit en lui-même, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que quand tu dis dans cette armée, il y a un problème, ils fracassent des gens qui sont de la même armée qu'eux, les officiers qui ne sont pas bien aimés, les bleus, ils sont.
Tu as justement qui est démontré dans Platoon, là, le sergent
Barnes, c'est tout.
Barnes, ouais. Donc qui est vraiment, lui, il est vraiment pro-militaire, quoi. Il voit que la solution du Vietnam serait que par les armes, par tuer tout le monde et tout ça. Et tu as comme l'autre sergent, donc qui s'appelle Elias, là, qui est joué par Dafoe, c'est ça ?
William Dafoe.
Voilà. Et lui, pour lui, tu vois, il est déjà plus
modéré.
Ouais, plus humaniste, plus modéré, il est plus réaliste. Tu vois, il sait que c'est perdu, quoi. Il sait que c'est perdu, le combat, quoi.
Ouais, voilà. Mais donc, quand tu dis qu'il y a des problèmes dans cette armée, moi, je pense que De toute façon, dans l'armée, il y a des problèmes. Donc, c'est non, pas que dans l'armée américaine au Vietnam. On le voit en Afghanistan aujourd'hui, dans l'armée américaine.
On parle du Vietnam.
mais l'armée a toujours des problèmes.
L'armée est un problème.
C'est
pas faux.
Pas ça. C'est après, il peut y avoir des bons et des mauvais ordres aussi. Hein. Les troufions qui sont retrouvés au Vietnam, ils sont pas partis pour rien. C'est au départ qu'il y a eu un gros souci.
Oui, mais ça, on le voit de toute façon en 14-18. Parce que je veux dire, il y a eu des trucs.
Oui, mais là, on parle du Vietnam.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, quelque part, il y a une histoire où les officiers veulent absolument obtenir une colline, un lieu dit, et ils envoient des soldats, ils n'en ont rien à foutre de combien ça va coûter.
Ça s'est fait en
14-18. Ouais. Je veux dire, la ligne Maginot en 39, où les Français croyaient que les Allemands allaient stupidement se lancer contre une forteresse alors qu'ils ne l'ont pas fait. Ça s'est fait à Stalingrad, où Staline a décidé qu'il fallait tenir la ville absolument, quitte à sacrifier ses propres.
C'est pas un problème d'armée. Comme ça, je te parle des problèmes internes de l'armée.
Ça, c'était
parce que, regarde, on revient sur le conditionnement. Il y en a, ils savaient faire que ça. Tu les remettais dans la vie civile, ils ne savaient rien faire d'autre. Tu prends le cas du sergent Barnes, ils ne savaient faire que ça, que tuer.
Et le colonel Kurtz dans Apocalypse. Non, ouais. Je veux dire, c'est à un moment, ils ont dépassé un stade d'être humain. Je veux dire, c'est dans des machines à tuer, ils sont là pour le faire et ils font leur boulot. Dire un moment, et s'il y a quelqu'un qui est contre, on le tue, on le massacre. Parce que, je veux dire, un être humain par rapport à un autre.
C'est une force brutale aveugle. Hein,
ouais, mais
façon.
C'est ça.
C'était
ça. Et Rambo, c'en est un. Je veux dire, il a fait ça. Et je veux dire, quand les mecs commencent. Parce qu'il y a un moment, il est amené à être lavé par force. Et à un moment, il a des flashs, il revit ça. Et à un moment, ce sont quand même des Américains sur qui il va se déchaîner, et ben c'est pas grave parce que pour lui c'est des ennemis.
Oui, il le dit d'ailleurs à un moment donné quand Trotman, c'est
le colonel,
il arrive et qui dit je ne suis pas venu sauver Rambo de la police, je suis venu vous sauver la police de Rambo, quoi, tu vois. En gros, ça veut tout dire. Le gros, c'est une machine à tuer et que.
Ouais.
Il le dit de toute façon, parce qu'à un moment, je crois, quand il chope là au début dans la forêt, il lui dit je vais te faire une guerre comme t'en as jamais connu.
Voilà, c'est ça.
Alors arrête de me faire chier, qu'il lui dit au shérif.
Voilà, c'est ça. Je veux dire, à un moment,
ça veut tout dire. Tu vois, les mecs, ils étaient encore là-bas, mentalement. Il n'y avait pas de suivi à l'époque.
Parce que
si tu regardes bien, le choc post-traumatique, il s'est fait qu'avec l'Irak.
Voilà, tout à fait. Après l'Irak, on est arrivé carrément dans des trucs, je dirais, des guerres entre guillemets.
Oula, ça fait plus, ce que je vais dire.
Plus économique, voilà. Non, mais je veux dire, quand t'as...
Quand t'envoies 20 drones, oui, tout à fait.
Non, mais il y a des cibles qui devaient être détruites parce qu'il y avait des marchés derrière où des types devaient reconstruire l'usine. Alors...
Si tu regardes bien, parmi les vétérans du Vietnam, 50% ont été diagnostiqués comme atteints de troubles mentaux,
Ouais.
Ça fait quand même énorme.
Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais le film L'expérience interdite avec Julia Roberts et Kiefer Sutherland, et ben le père de Julia Roberts, à un moment, se suicide devant elle parce que, en fait, quand il est revenu du Vietnam, c'était un héroïnomane, Et quand il a vu que sa fille avait découvert qu'il était héroïnomane, il s'est suicidé,
C'est clair.
Donc voilà, je veux dire, il y a aussi, et ça on n'en a pas parlé, c'est toute cette histoire de drogue
Les vétérans du Vietnam ont fortement pâti de ce manque de soutien à la population. Donc tu en parles, donc l'usage des drogues, l'alcoolisme, la précarité, le chômage, l'absence de logement, les comportements délinquants, voire criminels.
Il y a des films là-dessus sur le retour des vétérans au pays.
T'as Rambo, c'en est un.
Voilà, c'est ça.
Très bien, très bien.
Pour faire une petite référence à un film un peu plus français, t'as Le Capitaine Conan, que j'ai vu dernièrement. Et effectivement, ce sont des soldats qui ont fait la guerre, qu'on a envoyé dans des missions périlleuses. Et à un moment, c'est la paix. Les types, ils n'arrivent pas.
Oui, parce que lui, pour faire un peu le synopsis du film, lui, il est chargé en fait de nettoyer les tranchées. Donc, tu vois, tu le vois dans le film, il tue tout ce qui reste dans les tranchées. C'est-à-dire, il leur coupe la gorge.
C'est-à-dire, c'est dans le blanc des yeux, l'adversaire. Donc, je veux dire, à un moment, ils ont passé une ligne. Et c'est ce qui est dit. Alors, je me rappelle plus dans quel film. Je crois que c'est dans Full Metal Jacket. C'est un soldat. Il a le regard à l'horizon, c'est-à-dire qu'il voit loin. Il est plus avec le reste de l'humanité. C'est que quelque part, il est perdu. Alors, je veux dire, quand tu le renvoies.
En sécurité.
Il est avec son peloton, ils font masse. Je veux dire, c'est eux contre le reste du monde. Et quand tu les divises et que tu leur envoies dans la société, quelque part, les mecs, ils sont paumés.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu sais, que Reagan a créé justement ce département qui s'occupe des vétérans. Parce qu'ils sont arrivés à un problème que ils ont pas prévu ou pas prévu ou pas voulu, je ne sais pas, que vous avez plus les crédits à l'époque de s'occuper enfin de leur de retour de leur vétéran quoi.
Oui, mais d'ailleurs on le voit dans l'année 4
parce qu'on était en pleine crise en plus.
Oui, non mais oui, c'est quand le mec revient du Vietnam, on le met dans ça s'appelle dans un hôpital du Bronx et je veux dire mais ils sont laissés à l'abandon quoi les types, il y a des rats partout, c'est du tout et de n'importe quoi et les mecs ils baignent dans leur vomi ou les escargots, je veux dire quelque part voilà, ils étaient laissés à l'abandon, mais ce qui a été aussi le cas des Français après 14-18. Bon après il y a eu des
oui, puis on le voit aussi avec le donc la drogue et comme tu parlais tout à l'heure, donc on le voit bien dans un film qui s'appelle Air America, je sais pas si tu l'as vu avec Mel Gibson. C'était en 1990, donc c'était un petit mot là-dessus.
D'accord.
C'était une compagnie aérienne donc privée qui était sous émanation officieuse de la CIA, qui opère en Asie du Sud-Est, donc qui était donc trafic d'héroïne, mis en route par des responsables américains avec les autorités.
Non, ça fait pas.
Hein.
Mise en place.
Mise en place, oui, merci Gwen. Par des responsables américains et des autorités locales, quoi, en fait.
D'accord.
Donc, voilà. Donc c'est un film qui est là-dessus, qui est pas mal. Et tu revois justement,
ils en parlent
dans L'Arme Fatale.
Voilà. Ah, dans le premier. Fatale, j'ai vu.
Oui, tu l'as vu le premier ?
Oui.
Et c'est justement là-dessus, quoi. Tu vois l'argent, là, puisque si, ils te disent, le colonel, je sais plus comment il s'appelle, le méchant, là, dans le film L'Arme Fatale.
Oui, bon, bref, je vois qui c'est.
Oui, et donc c'était justement là-dessus. Ils faisaient encore des convoyages de drogue avec l'argent, tu sais, qui restait de.
Oui.
Ah, voilà, le colonel McAllister, qui faisait des convoyages de drogue, en fait, avec l'argent, tu vois. C'était d'anciens vedettes du Vietnam pour. Et Air America aussi était créé, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Donc ça remonte à vieux, déjà, les soubassements de.
Voilà, tout à
de la CIA.
Donc beaucoup de drogue dans cette guerre aussi. Alors le mot, un dernier mot, mais d'air sur le cinéma vis-à-vis du Vietnam. Alors, on a dit critique tout à l'heure, le cinéma américain.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi...
Un dernier mot, je dis pas un dernier monologue.
Ah oui, mais je veux dire, c'est aussi l'émergence.
Il y a tellement de choses à dire.
Beaucoup de réalisateurs de renom, oui. Et qui a fait aussi beaucoup pour justement l'autocritique du gouvernement américain vis-à-vis du
Vietnam. Il y a plein de nouveaux acteurs aussi qu'on a vus. On a vu Christopher Walken, on voit Johnny Depp aussi dans Platoon. On a vu Meryl Streep, c'était ses premiers films.
Voilà aussi, voilà.
De Niro.
Harrison Ford aussi dans Apocalypse Now aussi.
Donc une période qui révèle.
Oui, parce que dans le film.
C'est tous les années 80 aussi. Hein.
Dans le film de Coppola, Apocalypse Now, on voit bien que lui, il s'est vraiment donné à fond sur ce film. Hein. Je crois qu'il a même investi sa fortune personnelle.
Oui, tout à fait.
Il a perdu 40 kilos pendant le film. Il a menacé plusieurs fois de se suicider. Enfin bon.
Et je crois
du
que
coup, il n'y a plus d'argent pour Twitch.
Et on voit d'ailleurs dans ce film-là sa fille qui était là aussi, Sophia.
D'accord. Ok. Bon. Sinon, super les garçons.
Ouais, il y aurait plein de choses à faire, mais bon, enfin plein de choses à dire, pardon.
Disons que c'est large. Il y a quand même une cinquantaine de films. On
voit
a parlé que
vous avez été passionné par la guerre du Vietnam.
Non,
au
mais
cinéma,
il y a vraiment, c'est des chefs-d'œuvre. Tous les ceux qu'on a cités, moi je trouve que c'est des chefs-d'œuvre.
C'est votre époque.
Non, mais c'est bien de s'intéresser. Je trouve qu'on voit bien la guerre du Vietnam par ces films-là. Quoi.
Non, mais je dis ça, c'est votre époque, mais c'est pas du tout critique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi je suis des années 90. J'ai commencé à regarder et à être critique sur des films dans les années 2000. Je sais plus du tout. C'était pas ma guerre, quoi. Non, mais c'est plus du tout
c'est
ma génération.
Non,
quoi.
Je comprends. Mais ça t'empêche pas après de.
Ah non, mais ça m'empêche pas du tout de les regarder et de les voir maintenant, il n'y a aucun problème.
Y a peut-être
mais
aussi
ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décalage.
Il y a peut-être aussi un décalage homme-femme, hein, parce qu'on ne regarde peut-être pas non plus les mêmes films. Hein.
Je pense pas.
Non, mais tu peux t'intéresser.
J'aurais même pu les voir sans les aimer, tu vois ce que je veux dire. Mais écoute, bon, j'en regarderai quelques-uns de toute façon avec grand plaisir avec vous pour la semaine prochaine. On a vu Cuisine et Dépendance.
Oui, c'est vrai, on l'a
vu. Oui, enfin, on l'a vu.
Bon, on a vu 4 films la semaine dernière, ensemble.
Oui, enfin, sur 2 semaines.
sur un mois. On a vu Cuisine et Dépendance.
Voilà.
Donc, Je n'ai pas aimé.
Voilà.
C'est ton choix.
Tout à fait. Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était bien ?
De quoi ? De Cuisine et Dépendance ? Ben, je ne l'ai pas vu en entier, vous n'arrêtez pas de parler, donc j'ai pas aimé.
Voilà, ben moi j'ai adoré, mais enfin moi je l'avais déjà vu, donc voilà.
D'accord, donc je ne faisais que de parler avec Gwen et Hugo n'a pas pu apprécier à sa juste valeur le film.
Voilà,
ensuite, on a vu Captain America.
Ouais, c'était génial, faut aller le voir.
Surtout le moment où il se met torse nu.
J'ai pas vu ce passage.
Désolé, moi. Ma pudibonderie m'a interdit de regarder cette séquence.
C'est bien, Gwen, c'est bien.
C'était
j'aime
bien,
quand
mais
t'es puritain.
Ça appelle Avengers, quoi. T'as envie de voir Avengers après. Non ?
Oui, alors là, enfin bon, le film n'est pas mal, mais ouais, de là à attendre une suite.
Bah si, puisqu'au début du film, il découvre le vaisseau dans la glace.
Oui, non, mais
et à la fin, tu vois qu'il s'est encastré dans la glace. Donc tu te dis, il y a une suite, génial, non ?
Non, mais disons que surtout quand on a vu le film, c'est que déjà, on savait que les Avengers existaient. Il n'y avait pas un fil conducteur en disant, oulala,
oui,
il
oui,
va y avoir
vrai.
Une suite.
Non, mais, nous, mais moi, j'attends Avengers.
Oui, non, mais d'accord, mais ça, je n'en doute pas.
Non, mais tu iras voir le prénom avant, ça te calmera.
Ok, en parlant de films nuls qu'on est allé voir ces derniers temps.
Et là, au cinéma.
Bingo!
On est allé voir Thierce et Boom dans l'ordre, Coppola, le dernier, Twixt.
Twixt, voilà.
C'est une idée à
Naël. Hugo, tu veux commencer? Attends, mais Coppola,
alors, qu'est-ce qu'on
a valeur sûre.
Et donc, la semaine prochaine, on va aller voir Les Vacances de Dokobu.
Non, c'est hors de question.
Bon, alors ça, c'est réglé.
Twixt, c'était comment, Hugo?
C'était bizarre, hein. Beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin bon, je trouvais ça assez minable. Hein. C'est une série B à éviter, quoi.
Ouais,
tout à fait. Moi, j'ai failli même
pour
me
un
lever.
Coppola, voilà. Ça se demandait si Coppola a juste prêté son nom et c'est pas quelqu'un qui a tourné, quoi.
C'est ce qu'on disait à la fin. C'est est-ce qu'il avait pas juste besoin d'un peu d'argent et.
Oh bah ouais, mais bon, je veux dire, comme
le
film,
il aurait pu faire mieux, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que je veux dire, c'est Francis Ford Coppola. Je veux dire.
Moi, j'ai quand même l'impression que ça a été un peu sauvé par le jeu d'acteur de Val Kilmer, qui est quand même plutôt bon.
Gros.
Plutôt très énorme comme acteur. Et comme physiquement.
Ouais, mais c'est pour le film, ça.
Ah, mais ça, on saura pas.
Je vois pas tellement l'intérêt qu'il soit gros hein, dans le film.
Bah si, c'est pour lécher. Non, mais en tout cas, le moment où Val Kilmer bourré essaye d'écrire était assez anthologique. Mais par contre, le reste...
Ça, c'est vrai.
Y a pas grand-chose. La rencontre avec le shérif aussi était bien, mais après...
Ouais, au tout début, ouais.
Dis pas la fin, Gwen, dis pas la fin.
Non, parce que là, c'est pas un vieux film, ouais. Donc.
Non,
en tout cas, je trouve qu'il a été encensé pour quelque chose qui est pas forcément...
Oui, mais alors là, est-ce que c'est justement pas... Parce que justement, un Coppola, que forcément, le nom fait le film, quoi. Que les gens disent, non, c'est superbe, c'est un petit catégorie Z qui s'assume. Mais c'est juste parce que ce serait Coppola, ce serait André
il serait même pas sorti Kislowski, au cinéma.
Ou un nom complètement...
Oui.
Il serait passé totalement inaperçu. Oui, oui. Mais là, comme c'est Coppola... Voilà,
ouais. C'est un nanar.
C'est un
nanar, pur
voilà.
Navet, oui.
Oui, oui, il y a des séquences, je veux dire, d'anthologie, mais dans le mauvais sens du terme.
Donc Twixt a évité vraiment.
Oui, 2 voilà. Sur 20, quoi.
2 sur... Waouh, carrément, ouais.
Pour les images.
Pour les images, oui, il y avait
même
certaines
pas,
images
même
qui
pas.
Étaient jolies,
2 sur 20.
Mais en tout cas, vu qu'il était vendu pour ces images, tu t'attends à mieux que ça. Enfin, bref.
Oui, mais ça tout à fait. Non.
Il a voulu, je pense qu'il a voulu s'attaquer à un genre et il n'est pas doué pour ça. Quoi.
Ouais,
il avait quand même fait Dracula. Donc,
Attends, c'est pas pareil.
Ah bah non, c'est sûr, c'est pas une histoire de vampire.
Non, mais là, non. Là,
non,
c'est...
mais tu peux pas comparer ça. Quoi.
Pas même...
C'est
même pas une
quoi,
histoire
ça.
De vampire, celui-là.
Tu m'as énervé, là. Hein. J'ai donné un coup de Kalachnikov.
On est aussi allé voir sur la piste du Marsupilami d'Alain Chabat.
C'était génial.
Waouh. Bah écoute, autant d'enthousiasme.
Non, c'est pas vrai, c'est une blague.
Ah, super. Non, parce que moi, j'ai pas trouvé ça super non plus.
Si, mais c'est super drôle, quoi. Parlons peu, parlons bien. Attends, c'est énorme, ça.
Il y a un jeu de mots dans le film que vous avez retenu, et c'est là, il ressort à toutes les sauces. Quoi.
Non, Lambert Wilson, moi, je trouve que côté danse, côté chant.
Ah non, Lambert Wilson, complètement.
Non, mais l'hommage à Céline Dion, c'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Non, mais t'as pas d'humour, quoi. Toi, c'est trop. Tu as un humour sophistiqué, là. Il faut pas réfléchir. Tu regardes ce film, puis voilà.
Non, mais j'ai bien aimé.
Tu manges les images, c'est tout, quoi. Les dialogues.
J'ai bien aimé les références à Chabat, au nul, etc. Mais. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu lourd, où je me suis dit, putain, il a fait un film comme Les Vacances de Dokobu, quoi. Non, mais parce
que... c'est plus relevé, quand même.
Non, il y a des fois des choses qui sont vachement sympas, où tu retrouves l'esprit, les nuls, et c'est là, ouais, fou, cool.
Non,
le pas long peu, pas long bien, c'est ça, d'ailleurs.
Les pubs aussi,
ouais. Mais sinon, qu'il y ait un truc comme le Marsupilami, il l'avait super bien fait avec Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Qui avait fait un tabac.
Oui, mais ça, c'était surtout l'esprit Canal+. Hein.
Puis il y avait du pognon, là. Hein. C'est une grosse production.
Tu crois qu'il y a moins de pognon sur Marsupilami ?
Non, mais moi, j'ai trouvé le Marsupilami, l'animation en lui-même est vraiment bien faite, quand même.
Oui, l'animation en elle-même est bien faite, mais le Marsupilami, déjà, comme disait Manon, le Marsupilami, il fait ouba. Hein. Il fait pas un...
Oh là là.
Non, mais enfin,
Non, mais justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens arrivent au cinéma avec des idées préconçues sur un film. Et que forcément.
Ils sont pas ouverts après.
Voilà, c'est ça. Et qu'après, forcément, quand il y a des.
Dans ce cas-là, Astérix et Obélix aussi, ils sont loupés. Hein. Je suis désolé.
Bon, d'accord. Bon, écoute, j'ai pas aimé.
Bah, d'ailleurs, il me semble que.
Ou elle est énervée. Ça y est, Gwen, tu l'as énervée, j'en étais sûr.
Non, mais.
Elle va nous faire une guerre comme jamais on a connu.
On passe au film du Pestel.
Tout à fait.
Ouais.
Oui.
Ouais. les films du Pestel. Wouh. Alors, au Pestel, dans la semaine du 16 au 22 mai, on aura la chance de voir, je dis les titres et ensuite on disserte, ok ? On aura la chance de voir trois films, donc Les Vacances de Duc Aubu de Philippe de Chauveron, L'Enfant d'en haut de Ursula Meyer et Five Easy Pieces de Bof... Bof ? Non, pas bof.
Bof.
Ah bon, déjà bof. Non, non, c'était un très beau film, attends. 1970.
Je recommence. Et Five Easy Pieces de Bob Rafelson. C'est une version restaurée, effectivement.
Oui.
Il est sorti en 70.
C'était son deuxième long métrage.
Alors, on commence par le début, Les Vacances de Duc Aubu. On en a déjà parlé.
Non, oui.
Au
oui,
début du
oui,
mois.
Oui, oui, ben, c'est lamentable, n'allez pas le voir, ne perdez pas votre temps ni votre argent, quoi, c'est réglé. Quoi.
Non, mais attends.
Je comprends pas qu'on donne des subventions pour faire des films aussi pourris.
Parce
quoi.
Qu'on donne des subventions pour faire des films comme ça.
Bien sûr, le cinéma français est subventionné. Quant à Canal+, M6, TF1, tout ça, ils donnent des ronds.
Élise
et France Productions. Hein.
Élise oui, et Moon, Joséphine Demeaux, Juliette Chappé, la suite donc de...
Enfin, si tu veux y aller, oui.
De Duc Aubu, de L'Élève Duc Aubu, qui était, on en a déjà parlé, donc on va oui, pas redire tout ce qu'on avait dit, mais en gros, c'était déjà une BD un peu nulle.
Au témoin d'un doute, c'est le même comédien que le 1 ou le 2
parce oui,
que
oui.
Le
1, il...
ah oui. Oui, je
oui,
pense.
Oui. Ah ouais, bon, parce que
le monsieur pas, avec son slip abeille, là.
Ouais, ouais, parce ah, que d'accord. Je ne l'ai pas reconnu, franchement.
Donc, la BD était nulle, le premier film était nul, le deuxième film... Je vous laisse aller
oui,
voir.
Oui, surtout qu'il fait une chasse au trésor et là, tu oui, dis, c'est bon.
Ah, mais en fait, c'est ce qu'on minable. Disait pendant qu'on regardait les bandes annonces, c'est un peu les Goonies en nul.
Voilà, c'est ça. C'est enfin, en nul, pas les oui, oui. Les quatre compères de Canal+, hein, l'adjectif, hein.
C'est pourri.
Ah oui, oui. Voilà. Non, non, mais les Goonies, c'était vachement bien. Là, ils ont recopié.
Ça n'a rien à voir.
Oui, mais voilà.
C'est naze.
Non, mais c'est juste l'occasion de faire un film avec. En plus, le faire revenir Elise Moon. Tu dis, mais ça sert à quoi dans le premier.
Mais, parce que sans Elise Moon, il n'y a personne qui oui, va voir
voilà,
le film.
Oui, non, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est débile. Je veux dire, tu ne peux pas faire un film sans un seul personnage. Et encore qu'il n'est même pas le personnage
mais
principal.
C'est ridicule. Très bien. Ensuite, il y a un autre film qui est L'Enfant d'en haut, donc de Ursula Meyer, avec Léa Seydoux, Casey Motet-Klein, Martin Compston, et qui a eu l'Ours d'argent au Festival de Berlin et qui a l'air assez...
Je sais pas s'il y a pas Gillian Anderson dans ce film.
Assez génial.
Ah, je sais pas. Alors là,
je
peux pas dire.
Tous les matins, l'hiver venu, Simon, 12 ans, emprunte la télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa grande sœur Louise à l'opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il dérobe ski, doudoune, lunettes qu'il revend à ses voisins de HLM pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices et subvenir à Louise qui travaille quand ça lui chante. Donc on a vu la bande-annonce au cinéma, ça a l'air assez extraordinaire. Effectivement, Léa Seydoux, moi je l'aime beaucoup comme actrice.
C'est une actrice qui est née.
Oui, et puis en
ça
plus,
la révèle, je pense, film un peu
non,
plus.
Non, c'est marrant, c'est la séance Léa Seydoux au Pestel.
Ouais,
hein, ouais. Parce que là, cette
avec
semaine,
les adieux
y
à la reine.
Les...
Ouais.
Voilà. Les adieux à la reine, oui. Puis, non, mais ça fait 3-4 films là, qu'elle fait qui marchent bien. Et celui-là a l'air vraiment sympa. Enfin,
sympa.
Elle a l'air un peu dure, mais,
oui,
mais en tout cas, qui apporte quelque chose.
Oui,
quoi.
Il vaut mieux aller voir celui-là, je pense. Ouais.
Que Les Vacances de Duc Aubu, oui, c'est sûr.
Il n'y a même pas photo.
Oui, c'est ça, il n'y a même pas photo.
Voilà, et Télérama, ils disent que Ursula Meyer échappe au piège du naturalisme social dans son cinéma. Le conte trouble toujours la surface du réel. Et effectivement, quand on voit la bande-annonce, on se rend bien compte qu'il y a un truc un peu louche dans cette histoire. Elle se prostitue à moitié. Enfin, c'est bizarre, leur histoire.
Ouais, ouais.
Non, elle vit en fait des larcins du gamin, je crois, c'est ça.
Ouais, mais à un moment, elle dit... Enfin, c'est étrange, puis ils sont pas vraiment frères et sœurs. Enfin, on sait pas trop.
Ouais, ouais, il y a une histoire qui est cachée, là.
Il y a une autre...
Vers la fin de la bande-annonce, il y a un truc qui est dit, et tu dis, ah, il y a un petit truc de caché, quoi.
Donc, il y a une autre critique qui est faite sur donc, l'excellente direction des acteurs, la fluidité du montage, l'absence de psychologisme et de jugement. Donc, je pense que c'est pas mal, quoi.
C'est qui dit ça ?
C'est pris au hasard. Ça doit être un de tes nombreux magazines que tu aimes tant.
Super. Donc voilà, donc moi je vous conseille
gentil,
L'Enfant
hein.
d'en haut. Oui, c'était ouais, gentil.
Merci.
Je vous conseille L'Enfant d'en haut, donc qui va passer cette semaine au Pestel. Ensuite, on a Five Easy Pieces qui va donc de Bob Rafelson qui passe aussi cette semaine, version restaurée en février 2012. Qui est un film qui date de 70 avec Jack Nicholson, Karen Black et Suzanne Anspach, je pense que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. Issu d'une famille bourgeoise d'artistes et d'intellectuels, Robert Dupuy a rejeté son milieu, frayant désormais avec des ouvriers, des serveuses ou des joueurs de bowling. Néanmoins, il n'est à son aise nulle part. Alors, je ne l'ai pas vu, ce film. Tu l'as vu peut-être, Hugo ?
Non.
D'accord.
Moi non plus.
Tu l'as vu,
Gwen ? Non, du tout. Là.
C'est le portrait d'une Amérique qui traverse en fait une terrible crise existentielle, je pense. Que c'est le sujet du film. C'est une fuite, c'est l'éloge de la fuite, il me semble.
Ça sort en 70, donc en plus, effectivement, bah c'est pendant cette histoire de guerre du Vietnam.
Oui,
plus.
Aussi, oui.
Cette confrontation conflictuelle de types culturels et sociaux apposés est au cœur du cinéma de Raphaelson. Constamment prise en étau et incapable de se fixer et de s'engager, le protagoniste campe le malaise des Américains qui ne se reconnaissent ni dans la majorité silencieuse chère à Nixon, ni dans la communauté hippie. Ne reste
alors que la
fuite. C'est positif qui dit ça. Effectivement...
C'est sur le modèle de la réussite individuelle et de la prospérité. Et en fait, c'est un débat entre tout ça, quoi, la contre-culture, comme tu disais, sur la guerre du Vietnam et des révoltes.
Oui, parce que Nixon, donc Ricky le Roublard, en fait, c'est aussi un moment, un carrefour important au niveau de l'histoire américaine, puisque on sort de Kennedy, de Johnson, et toute l'histoire des conflits vietnamiens. Et ensuite, on va basculer sur Gerald Ford et puis le fameux Ronald Reagan qui amènera
C'est pas ce réalisateur qui a fait Easy Rider, non ? C'est pas lui ? Ou Ghost Rider, je crois, un truc comme ça. Non, Easy Rider ?
Peut-être.
Je ne pourrais pas te dire.
Je sais
que c'est son deuxième long métrage. Je crois que le premier, c'est Easy Rider, il me semble.
Eh bien, possible. Je ne me rappelle plus qui a fait Easy Rider.
Ça a vérifié, ça.
À vérifier.
Je crois que c'est Gwen qui m'a soufflé cette info, là.
Ah, tout à fait. ce qui est intéressant dans Five Easy Pieces, c'est que si vous y allez le dimanche 20, il y a des gâteaux. Il y a le film qui passe dimanche 20 à 10h30 et à partir de 9h30, le Pestel vous offre un café croissant. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà.
Anaël va déjeuner tous les dimanches là-bas.
Non, c'est faux. Dans le dimanche, je dors. La semaine prochaine, nous verrons l'humour britannique au cinéma.
Oui. Hasta la vista, baby.
Au revoir.
Goodbye, Dee.
Coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tears. Somewhere inside something there is a Russia. Knows what stands in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius. I believe in God. And I believe that God believes in laws that speak.
Yeah.